Sans attendre, je donne la parole à Philippe Gilles qui va nous parler des méthodes de l'e-learning. Philippe Gilles est directeur de Demos e-learning.
Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir en ce cénacle tout à fait prestigieux et impressionnant. Je vais tenter de vous faire partager mes maigres connaissances d'un domaine qui commence à être non seulement émergent, mais de plus en plus prégnant, qui est celui des nouvelles technologies appliquées à la formation. En bon français, e-learning dans le texte. Le e-learning, en fait, c'est une nouvelle approche qui impacte tout organisme de formation. Si j'ai bien compris, les quelques séances que nous allons passer ensemble pendant ces 3 jours seront toutes podcastées. Podcastées, ça veut dire qu'elles sont in vivo enregistrées, puis ensuite mises à disposition sur le serveur du Collège de France, mais aussi sur le serveur d'autres partenaires, ce qui va permettre une profusion, une démultiplication de cette ressource. À l'infini, peut-être pas, mais en tout cas sur des cibles bien plus nombreuses que ne peut en contenir ce magnifique amphithéâtre. Donc, en tant que groupe de formation, parmi les plus gros opérateurs de la formation professionnelle dans le monde, nous sommes confrontés à accompagner nos clients dans l'intégration de ces nouveaux dispositifs pédagogiques utilisant ces technologies, et en même temps, nous sommes sujets, objets de repenser nos pratiques, puisque nos formateurs dits présentiels, ceux qui interviennent in situ dans des salles de formation moins prestigieuses et moins grandes que celles-ci, eh bien, il faut les aider à réinventer leurs pratiques, à réutiliser différemment leur savoir pour le mettre à disposition selon des dispositifs nouveaux. Alors, peut-être aussi savoir que ce n'est plus un effet de mode. Il y a 10 ans, quand ces technologies sont apparues, on se disait « demain, on rase gratis les formateurs dehors, demain, on fait tout à distance ». Bien sûr, de cela, vous savez que le changement prend toujours beaucoup plus de temps qu'on l'imagine, et cela n'a pas eu lieu, bien évidemment. On raisonne plus en termes de complémentarité aujourd'hui que de substitution, et on pense plus à l'efficience, l'augmentation du rapport coût-efficacité de la formation professionnelle et du résultat mesuré grâce à l'usage de ces technologies. Incontournable aujourd'hui, ces technologies en entreprise font changer, évoluer les métiers de la formation, c'est ce que je vais essayer de mettre en avant. Avant, tout simplement, on avait une unité de lieu, de temps, d'espace. C'était le sachant face à ses stagiaires, comme on les appelle en formation professionnelle, ses étudiants dans le monde éducatif. Une seule relation quasiment, pardonnez ceux qui sont passionnés par le papier et le livre, mais bien entendu, le sachant, c'est lui qui met en scène l'expertise métier, l'expertise pratique, et qui la médiatise auprès de ses apprenants, de ses stagiaires, pour qu'ils percutent, apprennent, progressent. Aujourd'hui, on est confronté à des choses qui multiplient les possibles, puisque nous sommes à la fois en présence, mais aussi en présence à distance, à travers la formation dite synchrone à distance, les fameuses classes virtuelles. On se retrouve non pas physiquement, mais sur des serveurs distants, où le formateur, là aussi, joue le même rôle, mais sans la présence physique de ses stagiaires. Et puis, on a bien sûr tout ce qui est ressources dites asynchrones, des ressources stockées, plus ou moins scénarisées, mises à disposition sur des serveurs web et consommables, excusez-moi du terme, quand on le veut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ces 3 possibilités conjuguées, bien sûr, donnent des dispositifs pédagogiques de plus en plus variés, ce que l'on appelle en bon français, là aussi, mais vous voyez malheureusement d'où viennent ces premiers usages, le blended learning, la possibilité de créer des dispositifs pédagogiques qui mixent finalement à la fois du présentiel, du distanciel, du synchrone et de l'asynchrone. Vous comprendrez bien que face à ces changements majeurs, les formateurs que nous sommes sont appelés à bouger dans leur pratique, dans leur métier, les formateurs bien sûr, mais le management qui pilote les stagiaires, et vous verrez tout à l'heure comment, et bien entendu, les organisations de formation qui doivent gérer tout cela. Pour faire simple, et là aussi j'espère rapide pour tenir le timing, on a quelques ingrédients à maîtriser pour faire du e-learning. Je les affiche rapidement à l'écran. Il faut des contenus, ça n'a pas changé. Les bases de savoir sont de plus en plus riches et structurées. Il faut ce qu'on appelle des plateformes logicielles pour distribuer ou donner accès à ce savoir. Il faut administrer, gérer ces contenus, ces bases de connaissances, les organisations qu'il faut mettre à distance pour permettre au formateur qui devient tuteur d'administrer ses formations, ses parcours pédagogiques. Et puis, il faut communiquer, faire vivre ces communautés d'apprentissage. Et bien entendu, le regard que l'on a sur la formation change. Alors, je ne dis pas qu'il a changé du tout au tout avec le e-learning et que les bons enseignants n'étaient pas déjà dans cette pratique-là, mais d'une logique où c'est le sachant, le maître, l'enseignant qui transmet, eh bien, on passe à quelque chose où on est davantage centré sur le stagiaire, l'étudiant. D'ailleurs, il change de nom, il s'appelle apprenant de plus en plus. Donc, vous voyez bien que leur rapport à la formation change. Il devient central et le formateur, le sachant, lui devient un des médias auxquels il peut recourir éventuellement dans le cadre de ces dispositifs de formation. Un des médias, tout comme le sont les collègues, qui deviennent, grâce à des dispositifs de type classe virtuelle, eux aussi, facteurs clés de succès dans l'apprentissage. Bien entendu, si le formateur n'est plus l'unique recours, j'allais dire, pour former, on s'aperçoit que la notion de lieu explose littéralement. La salle de formation explose au profit des ressources pédagogiques qui sont accessibles dans des environnements variés. Vous en avez quelques extraits à l'écran, bien sûr des sites web, bien sûr toujours du papier, mais aussi vos mobiles, téléphones, PDA, tous les terminaux qui vont mettre la formation dans le creux de la main de chacun d'entre nous. Mais si tout cela n'était pas suffisant, au-delà du blended avec ces premiers avatars du e-learning qui sont des ressources pré-packagées, on arrive maintenant à de nouvelles formules. J'en ai cité quelques-unes ici, ce qu'on appelle les serious games, ce qu'on appelle le mobile learning, la possibilité d'avoir sur son téléphone mobile accès à des podcasts notamment, on en parlait tout à l'heure. Et puis, on va dire une nouvelle dimension du e-learning, comme on avait le web 1, qui ne s'appelait pas, d'ailleurs, il est devenu 1 parce qu'il y a eu le 2, simplement, et le e-learning 2.0, il est devenu 2, là également, parce qu'on a mis en place l'usage des technologies du web 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que cela ? C'est simplement le fait qu'au lieu d'apprendre seul face à sa machine, dans ce qui était souvent critiqué, on disait qu'on déshumanisait l'accès au savoir, on disait qu'on renforçait l'isolement, on n'est quand même pas transformé en geek, rassurez-vous, mais quand même, il y avait ce frein-là. Eh bien, les technologies issues du web 2.0, qui sont les technologies de la mise en relation, de la coproduction des savoirs, du partage de l'information, où l'internaute est acteur et producteur du contenu et partageur, si je puis dire, de ces ressources-là, eh bien, on les transforme dans le e-learning et on les fait participer à des communautés de pratique, à des communautés d'apprentissage, où ils sont vraiment acteurs de leur formation. Alors, ça peut prendre ce genre de forme pour un de nos clients, un grand groupe international. Nous avons travaillé sur une ligne de métier qui est la supply chain à l'international et ensemble, toute la communauté professionnelle de la supply chain se forme, s'informe, s'enrichit, capitalise, construit ses pratiques à distance et les partage. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que tout cela est combiné à du bon traditionnel présentiel qui est toujours très important dans l'apprentissage. Alors, bien sûr, on met en pratique tous les outils du Web 2.0, les wikis, les blogs, les forums, tous ces instants de partage et de la classe virtuelle pour animer tout cela. L'impact sur les métiers et la collaboration, alors je serais... on a une espèce de cercle, j'espère qu'il est vertueux. Les technologies du Web 2.0 sont des technologies qui viennent du grand public. Ce sont les jeunes, la génération Y, la génération Y, les digital natives, comme disent les Américains, ceux qui sont nés avec les technologies, qui ont inventé ces réseaux sociaux, les Facebook, les Viadeo, tout ce qui permet de mettre de la relation professionnelle et sociale en ligne. Eh bien, cette génération-là, elle arrive dans l'entreprise, elle est là, elle est certainement dans l'amphi aujourd'hui également, et elle utilise ces réseaux pour développer son expertise, l'enrichir au quotidien, faire que la formation soit un véritable continuum, un véritable process. Et puis de cela, eh bien, poussé par le marché, les entreprises s'approprient ces dimensions-là. Il faut avoir son Facebook interne, quand on est une entreprise, il faut travailler les communautés pratiques d'apprentissage, donc les entreprises investissent dans ce domaine-là, et au fur et à mesure qu'elles changent la façon d'apprendre en interne, elles changent les pratiques. Elles changent les pratiques, bien sûr, des formateurs, mais aussi des pratiques managériales, parce que le manager n'est plus nécessairement cautionné, j'allais dire, par son expertise métier, mais il l'est plus par son rôle de facilitateur, comme l'enseignant joue un rôle plus de facilitateur, voire d'accompagnateur, de coach, comme disent les Américains. Donc le responsable de formation, il a dû bouger vis-à-vis de tout cela. Il a dû prendre en compte non seulement son périmètre fonctionnel d'origine, la formation, mais aussi travailler dans des logiques plus de partage, d'accès à l'information, de base de données, de communication pour faire que ces dispositifs vivent, et puis d'échange et de capitalisation. Il a dû travailler, apprendre à travailler avec les gens du knowledge management, notamment pour mettre à disposition ces ressources-là. Et puis, on voit aussi que instrumenter la formation, la packager, la mettre à disposition dans des formats différents, permet aussi de toucher des cibles qu'on ne visait pas précédemment, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et donc, on a là aussi un concept d'entreprise étendue à travers la formation. Et l'impact majeur, bien sûr, de cette nouvelle collaboration en matière de pédagogie et de technologie, c'est sur les métiers de la formation. C'est le responsable de formation qui doit apprendre à faire non plus de la dépense, mais raisonner en termes d'ingénierie financière et d'investissement, parce qu'il faut investir avant de former. On investit sur des dispositifs, sur des ressources, et ensuite, simplement, on forme. Alors qu'avant, on organisait une session, et hop, on formait les 10, 12, 500 personnes qui étaient dans la salle. Le chef de projet de formation, il doit maîtriser l'ingénierie de dispositifs qui sont de plus en plus complexes, et de plus en plus riches, donc de plus en plus passionnants. Le formateur, quant à lui, il doit peut-être changer la façon de procéder, former à distance, il est toujours aussi passionné de la transmission de savoir, il doit savoir l'organiser, mais aussi peut-être scénariser davantage, il doit apprendre la dimension de designer, concepteur pédagogique. Bref, une forte évolution de son métier. Et puis des métiers émergents, nouveaux, il faut gérer ces nouveaux espaces numériques d'apprentissage, donc il y a des gestionnaires de plateformes qui émergent, il y a des concepteurs ou des designers pédagogiques qui vont être des véritables scénaristes, venus peut-être d'univers de la vidéo ou du multimédia, qui vont s'emparer de ces technologies pour faire de la formation différemment. Il y a des animateurs de classe virtuelle, on en a parlé, et puis il y a la logique de e-tutorat qui se met en place. Et puis il faut apprendre à travailler différemment, à travailler avec de nouveaux profils. Il faut savoir comment parler à un développeur informatique, savoir comment parler à un artiste, un créatif, celui qui va mettre en scène vos savoirs et les rendre, j'allais dire, attractifs, attirants, séduisants, pour faire que les apprenants reviennent, eh bien, tout cela, ça suppose un changement fort dans les métiers de la formation. Voilà, pour conclure, je vous invite, puisque nous sommes à la veille des vacances, à compléter, si ce petit propos vous a intéressé, votre découverte des e-learning appliqués et puis à son impact sur les métiers de la formation à travers ces deux ouvrages. Et la bonne nouvelle à travers ce que je vous ai dit, c'est qu'on le savait déjà, on n'apprend jamais, toujours seul, mais jamais sans les autres. Et le e-learning 2.0, tel que je vous l'ai présenté, ça remet bien cette logique au goût du jour. On apprend avec un effort personnel, mais on apprend par la mise en réseau avec ses collègues. Je vous remercie de votre attention.